Le Radio-Journal de Radio-Canada.
La chanteuse française Barbara est décédée. Un communiqué de l'hôpital parisien où elle avait été admise hier indique qu'elle a été victime d'un choc toxi-infectieux d'évolution foudroyante.
France Inter. Barbara, la grande dame brune de la chanson, est morte hier soir à l'hôpital américain de Neuilly, près de Paris. Elle y avait été admise en urgence dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait 67 ans.
L'aigle noir s'est envolé. Barbara, la femme en noir au profil d'aigle, avait une place à part dans la chanson française. Née Monique Cerf à Paris en 1930, elle connut des débuts difficiles dans un cabaret à Bruxelles. Elle interprétait Brel et Brassens avant de connaître le succès à Paris à la fin des années 50.
L'aigle noir, Göttingen, Ma plus belle histoire d'amour, Une petite cantate, Nantes, Drouot. Les chansons de Barbara ont marqué les 30 dernières années. Barbara s'en est allée la nuit dernière, elle avait 67 ans.
Sa légende, c'est sa silhouette d'oiseau de nuit, c'est une voix aux aigus éblouissants, des aigus qui effectivement frôlent la cassure, le tremblement, c'est toute l'émotion. Une voix qui griffe quand elle chante ses colères et ses peurs, notamment dans Lily Passion. Une voix qui caresse quand elle chante Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est la fin d'une histoire d'amour entre une dame en noir et son public. Une histoire qui durait depuis près de 40 ans. Barbara était entrée en chanson, un peu comme d'autres, en religion.
En 65, quand elle fait sa déclaration d'amour à son public, avec Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, tout Bobino pleure et les roses par centaines pleuvent sur la scène.
Témoignage maintenant d'une autre dame en noir. Son nom lui aussi a longtemps été associé à celui de Barbara, Juliette Gréco.
Il n'y a pas d'ultime adieu. Elle reste vivante et elle restera très longtemps. Et elle restera aussi longtemps que nous l'aimerons, aussi longtemps que les gens la chanteront. Elle vivra à travers tous les gens qui l'aiment et tous les gens qui apprendront à ceux qui ne savent pas encore qui elle est, qui elle était. Je pense que nous portons en nous la vie de Barbara. Elle n'est pas morte, elle n'est pas là.
Non, j'aime bien les journalistes. Et je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en disant ça parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
Sur France Inter, Barbara. Barbara, la longue dame brune. Barbara, la femme qui chante. Barbara, une voix qui trouve toujours écho à nos oreilles près de 15 ans après son départ. La chanteuse de minuit n'a peut-être pas eu d'enfant, mais en revanche, ses chansons ne cessent de bercer les nouvelles générations. Barbara, un legs, un héritage. Sa plus belle histoire d'amour, le pianiste Alexandre Tarot.
Ça se passe au Châtelet, au théâtre du Châtelet, ce théâtre qu'on avait l'impression qu'il avait été construit pour elle, un grand théâtre à l'italienne, 2800 places. J'avais 17 ans et quelques jours avant, j'avais joué dans une série qui s'appelait « Des grands interprètes aux jeunes talents ». C'est-à-dire qu'un grand interprète, en l'occurrence c'était Christiane Edapierre, une cantatrice française, remplissait la salle et jouait avec un tout jeune qui en général donnait un de ses premiers concerts. C'était très important pour nous. Et à la fin du concert, puisqu'à la fin des concerts on peut tout oser, j'avais demandé timidement au directeur s'il était possible d'avoir deux places pour la dernière de Barbara qui avait lieu 3 jours ou 4 jours après mon concert. Et tout était complet, je connaissais Barbara, j'en étais fou, mais uniquement par le disque. J'étais adolescent, j'ai découvert Barbara à l'adolescence comme beaucoup de personnes. Le directeur du théâtre m'a donné 2 places. Je suis venu avec ma sœur, Virginie, on était là dans la petite loge côté jardin. Et puis on a entendu tous ces gens crier. J'avais jamais assisté à un concert de chansons ni de rock. Donc il y a des gens qui criaient avant même qu'elle soit rentrée sur scène. Et il y a eu cette introduction qu'elle a gardée pour tous ses spectacles jusqu'à la fin de sa vie, que je peux vous jouer, qui était très chargée d'émotions déjà avant même qu'elle rentre sur scène. Côté court avec un regard perçant. Je dire que la clameur du public, c'était quelque chose que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs depuis. Et elle tournait sa tête, elle avait une sorte de mouvement de nuque assez exceptionnel, comme un éclair. Et son regard, ses yeux étaient un éclair. Et cet éclair-là est venu me transpercer ici, au fond de mon ventre, de mes entrailles, comme une flèche. Et cette flèche est toujours là, hein, longtemps après.
Plus loin que me reviennent l'ombre de mes sombres anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et gris, feux aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur est nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, sur la longue route qui me défère vous. Sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me chelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui mène jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en lui fallut bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leurs portes. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût tout ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre. Vous étiez venu m'attendre ici même, vous en souvenez-vous. À vos regards des sourires, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'ai fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'est dans Paris, au volant de sa voiture, que le chanteur Arthur Ashe se souvient de Barbara.
Mon plus vieux souvenir de Barbara, il est très archaïque, parce qu'elle m'avait, quand j'étais petit, je la connaissais, elle m'avait promis de m'acheter un vélo. Et en fait, elle ne me l'a jamais acheté, ce vélo, tu vois. Donc je ne dis pas que Barbara ne tenait pas sa parole, Mais toujours est-il que j'ai jamais vu, donc c'est resté entre nous. Il y a un vélo entre Barbara et moi qui flotte dans l'invisible. Tiens, c'est marrant, bah, parce que là, on passe juste à côté de l'écluse où elle a commencé. On est à quelques mètres de l'écluse où elle fait ses premières armes.
À ton avis, qu'est-ce qui fait que souvent, c'est à l'adolescence ou fin de l'adolescence qu'on accroche, qu'on est très, très sensible à Barbara?
Je pense que c'est à cause du spleen, quoi, de cette mélancolie comme ça, qui est effectivement très adolescente, très tourmentée, un peu extrême. Ça fait penser aussi à Baudelaire, quoi. Et puis aussi le plaisir de se vautrer dans la mélancolie, quoi. Il y a cette espèce de plaisir adolescent, de se sentir mal, et en même temps, quand on se sent mal, on a l'impression qu'on est très intense, qu'on est supérieur au reste de la planète, tous ces imbéciles qui vont bien, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça dans Barbara aussi, ouais.
Il pleut.
Ma première fois avec Barbara. Le chanteur Pierre Lapointe.
Je l'ai vu dans un documentaire sur la chanson française qui passait à la télé de Radio-Canada. Je devais avoir, je sais pas moi, 11 ans, 12 ans. Et je n'ai parlé à la cousine de ma mère, qui m'a offert un vinyle quelques temps après de Barbara, avec toutes les chansons qui après ça sont devenues mes chansons fétiches de Barbara, comme C'est parce que, ou Le mal de vivre, ou Madame. Quand j'ai eu ce vinyle-là, j'ai écouté ça, et je me rappelle d'avoir écouté du début à la fin, puis j'avais l'impression de retrouver quelque chose qui m'avait été enlevé. C'est étrange comme sensation, mais j'avais l'impression de me reconnecter à une énergie qui me manquait depuis longtemps. Et après ça, j'en ai fait comme une espèce de petite obsession. En fait, elle venait de décéder. Et puis j'écoutais, par exemple, Le mal de vivre, sans arrêt, parce que j'étais tellement touché par sa façon de chanter. Puis ce que j'avais sur le vinyle que j'avais, cette version-là, c'était une version qui était live où elle frappait sur le piano à un moment donné. Sa voix cassait, puis elle venait à trembler de façon hyper... C'était très prenant émotivement, donc je réécoutais cette chanson-là sans arrêt. Je replaçais l'aiguille au début de la chanson tout le temps, en me disant, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est très très fort. Et un jour, si je suis créateur, je vais réussir à aller chercher les gens avec autant d'émotion. Donc je me poserai pas de questions et je vais réécouter sans arrêt ce qui me touche, c'est-à-dire Le mal de vivre de Barbara. Comme ça, si un jour j'écris, je vais probablement aller repiger dans cette émotion-là qui va être rendue totalement intégrée en moi. Et j'ai, sans m'en rendre compte, parce que je ne savais pas à l'époque que j'allais être chanteur, je me suis formé par rapport au souffle. J'ai une façon de respirer mes textes qui ressemble beaucoup à Barbara. Grâce à l'enregistrement, les enregistrements qu'elle a fait, je me suis payé un masterclass un peu en l'écoutant, la réécoutant.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mille arrêts sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mille arrêts sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol do fa. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol do fa. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. 6 mille heures et 6 sols d'enfants. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi, cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte vers toi. 6 mille heures et 6 sols d'enfants.
Un souvenir de famille, la grande Sophie.
Pour moi, mon plus vieux souvenir, c'est un 33 tours qui trônait chez mes parents. C'était un portrait noir et blanc avec une dame très charismatique et ma maman qui écoutait Barbara. Donc les premiers souvenirs, c'est vraiment cette voix intense, à la fois fragile et en tout cas quand on écoute Barbara, j'ai l'impression qu'on ressent l'urgence qu'elle a de chanter ses chansons. Et moi, je sais que je suis revenue sur Barbara quand j'étais étudiante. J'étais étudiante aux Beaux-Arts et j'ai eu besoin de réécouter Barbara. Et quand je suis arrivée à Paris, je me souviens, j'ai eu la chance d'aller la voir à Mogador. Je ne voulais pas louper ça. Oui, je l'ai vue sur scène. Et je peux vous dire que quand elle arrivait, elle n'avait pas encore ouvert la bouche, que c'était déjà des frissons.
Justement, ça ressemblait à quoi, Barbara, sur scène ?
C'est déjà une démarche, c'est un personnage, quand elle arrive, elle prend tout l'espace. Elle est, moi je me souviens, j'avais eu énormément de frissons rien que pour son arrivée sur scène. Et puis c'est ce personnage tout en noir, très fine, assez souple, qui a envie de danser. Quand elle bougeait, j'avais l'impression quand elle se déplaçait qu'elle était un petit peu sur de l'eau, qu'elle glissait.
Inter, une musique, très fin de soirée. Rufus Wainwright.
La première contact que j'ai eu avec la musique de Barbara, c'était durant une période assez bohémienne de ma vie à Montréal. J'étais à l'école des Beaux-Arts, à Concordia. J'étudiais la peinture et le dessin. Mais j'étais pas là vraiment pour étudier plutôt pour se traîner avec les punk rockers ou les mods. I mean, c'est, il faut le dire, comme drogué. Et moi j'étais là avec eux autres et on écoutait beaucoup de Barbara. C'était la musique la plus congéniale pour la décadence, vraiment. Certains moments, peut-être plutôt à la fin de la soirée. mais c'était soit Sonic Youth, Kurt Cobain ou Barbara. Je pense que la raison que je dis ça, c'est que j'ai vu une émission en France où il y avait un clip, je pense que c'était des années 60, ou en tout cas une période où Barbara était vraiment comme à la hauteur de sa puissance, et elle jouait quelque chose d'impossible sur le piano. Ça pourrait être durant Nantes, je sais pas, mais elle jouait, puis elle regardait jamais à ses doigts. Elle juste chantait et ses yeux étaient complètement ouverts. Et j'ai pas su comment c'était possible qu'elle fait ça. Ça m'a vraiment apprécié. C'est une image que j'ai dans ma tête. Elle avait l'air aussi peut-être sur quelque chose aussi.
Un amour de jeunesse. Pierre Lapointe.
Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être touché par des émotions ou par une énergie, qu'elle soit sombre ou joyeuse. Je savais pas encore que j'allais faire de la chanson comme métier, mais c'était très fort le sentiment d'appartenance que j'avais. Puis ça, ben, je pense que c'est irrationnel. On a beau pas être formé encore, on a beau être un jeune adolescent, ces trucs-là viennent nous chercher, puis c'est important, ces moments-là. Il y a des moments, des espèces de rencontres qui créent des moments de grâce un peu. Je compare les premiers moments d'écoute, les premières fois où j'ai écouté Barbara chanter. Pour moi, c'est aussi important que quand j'ai rencontré mon premier amour. Pour moi, c'est dans l'équivalent. C'est pas comparable dans le sens où c'est pas le même genre de relation. J'ai jamais rencontré cette femme-là. J'ai jamais même pu la voir en spectacle. Par contre, j'ai eu une relation très, très intime avec elle parce que j'ai passé énormément de temps à l'écouter. C'est arrivé avec plusieurs autres artistes, mais je dirais que c'est avec elle que ça m'est arrivé pour la première fois d'avoir une relation presque amoureuse avec une chanteuse ou un chanteur.
Il avait presque 20 ans, fallait voir. Sa gueule, c'était bouleversant, fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de le voir sourire. Voilà que timidement, le Jésus me parle de tout, de rien, de sa momande. Tu parles, j'aime beaucoup les enfants. L'esprit de famille, mais j'ai dépensé le temps de jouer aux billes. Il avait presque 20 ans et la peau si douce, j'ai cueilli du bout des dents la fleur de sa bouche. J'ai feuilleté pour lui un livre d'images qui était pas du tout écrit pour les enfants sages. 30 jours et tant de nuits, donne, je te donne, lui pour moi et moi pour lui. Et nous pour personne, mais il fallait bien qu'un jour je perde mes charmes devant son premier amour. J'ai posé les armes, elle avait presque 20 ans, fallait voir sa gueule. C'était bouleversant, fallait voir pour croire. Ils avaient tous deux 20 ans, 20 ans. Le bel âge.
Alexandre Tarot, la voix du réconfort.
Vous savez, Barbara a aidé énormément de jeunes. Elle a aidé énormément de jeunes. Je vous ai dit à un moment qu'il y avait chez elle une voix qui nous enrobait, qui est une voix de velours très maternelle. C'est pour ça aussi qu'elle aide les adolescents. Elle est comme une seconde mère. Elle est là, on a l'impression qu'elle nous comprend. Je dis ça au présent comme si j'étais adolescent. Mais je me souviens l'avoir écoutée dans mon lit avec mon petit Walkman, moi aussi, des nuits entières. Je faisais déjà des insomnies. Alors mes insomnies, voilà. Mes insomnies, la solitude, le mal de vivre. Un adolescent sait ce que c'est que le mal de vivre. Qu'est-ce que c'est difficile de passer l'adolescence. Moi qui étais un pianiste, donc j'étais au conservatoire de Paris, je n'allais plus à l'école, donc j'avais très peu d'amis. J'étais très isolé. Une chanteuse comme Barbara pouvait me parler, me chuchoter à l'oreille avec cette voix tellement maternelle, tellement envoûtante, et comme si elle avait tout compris. D'ailleurs, elle avait tout compris.
Inter, Isabelle Boulet.
Ce qui m'impressionne beaucoup chez elle et ce que j'ai toujours trouvé magnifique, c'est sa manière de faire les choses. Parce que c'était une ouvrière de la chanson. Et pour moi, Barbara, elle avait pas d'âge. C'est quelqu'un qui s'adressait à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui chantait pour un public adulte ou un public... Tu sais, il y avait pas de cible. Les gens qu'elle touchait, c'était justement des gens qui avaient probablement vécu des tourments ou des grands vides existentiels aussi. Et elle entrait dans ce vide-là, le même vide dans lequel elle s'est toujours jetée. Mais elle réussissait à je dirais, à peupler de ces fantômes, de ces histoires, cette espèce de néant-là. Tu sais, je pense qu'elle était là pour habiller le néant.
Une chanson de Barbara plus efficace qu'un antidépresseur, l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui.
Il y a des gens qui disent qu'il faut être en forme pour écouter Barbara, mais moi, c'est pas du tout mon cas. C'est pas... C'est... Si je suis déprimée, je peux écouter Barbara et je me sentirais mieux, au contraire. Ça sert, oui, à supporter sa propre tristesse, à l'embellir, à la porter, à la rendre acceptable. Ça vous en fait une amie très chère et très proche, de façon immédiate. Et puis, elle a du recul vis-à-vis de ça, en plus. Elle a du... De l'humour, quoi. Enfin, je pense que beaucoup de gens connaissent ces états-là, mais Barbara, elle vit avec et elle en fait quelque chose de beau, quoi. Je trouve que ça donne de l'espoir, quoi, quand on est au fin fond du gouffre, et ou même à la surface du gouffre, enfin, et que on voit des gens qui en font non seulement de l'art, mais en plus surtout qui symbolisent la vie et l'amour de la vie, ça vous donne d'autant plus d'espoir. Là, j'intellectualise ce que j'ai ressenti, mais je pense que ça participe de ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette femme, c'est que par contre, voilà, on peut la redécouvrir plus adulte et ça vous fait le même effet. Enfin, alors qu'il y a des artistes qu'on, quand on les réécoute ou qu'on les revoit adultes, je pense à des films ou qu'on les relit à la littérature, on se dit « Ah, bon, bah voilà, c'était une époque ». Elle, pas du tout, ça reste et demeure mon amie pour toujours.
Une leçon de musique, Rufus Wainwright.
Pour moi, personnellement, c'était la façon qu'elle jouait le piano et chantait à la même fois. Ça, c'est quelque chose que toute ma carrière, j'essaie de faire. Bien. Et soit elle ou Nina Simone, il y avait comme une certain pouvoir qu'elle était capable de créer avec juste elle toute seule avec un piano. Elle a fait vraiment les trois points d'être un musicien. Elle a écrit beaucoup de ses œuvres, les paroles et la musique. Elle a interprété, puis aussi elle était une fantastique accompagnante aussi. Alors c'est un peu comme le triangle parfait pour un musicien. Et il y a très peu de gens à mon avis qui font ça parfaitement. Comme même disons Bob Dylan ou même Cole Porter, comme ils faisaient tout ça aux autres, mais il y a toujours une petite morceau qui est pas aussi brillant que les autres, mais pour elle, les trois sont vraiment tout stables. Elle était vraiment une artiste qui a maîtrisé les trois aspects d'être un troubadour, vraiment d'écrire des très bonnes chansons, de les chanter très bien et de l'accompagnement, c'est solide. Alors, c'est un peu comme un recet, disons, pour une bonne soupe, je sais pas, ça goûte bon.
Oser une chanson de Barbara, la grande Sophie.
C'est tellement une icône, Barbara, que je ne voyais pas par quel bout prendre les choses. J'ai eu besoin de me replonger dans son univers et me dire comment moi, Sophie, dans les années 2000, je peux chanter ces chansons que tout le monde connaît, puisque Barbara a un public encore très très fort qui suit tout ce qui se passe. Et j'avais très peur d'avoir des réactions même virulentes. Donc j'ai pris le temps, j'ai pris ma guitare et puis j'ai cherché comment je pouvais interpréter ces chansons-là. Et celles que j'ai choisies, je pense que... je me sentais bien à l'intérieur, oui. Donc j'avais décidé de reprendre Marianne Bad, Dis quand reviendras-tu, Du bout des lèvres, Göttingen, Les petits gâteaux, c'était une reprise qu'elle avait faite qui était assez drôle, et puis Ce matin-là. Et sur mon album qui s'appelait Des vagues et des ruisseaux, j'avais décidé de clore en tout cas l'album avec Dis quand reviendras-tu. Je me sentais particulièrement à l'aise dans cette chanson et puis j'avais envie complètement de me l'approprier. Donc Barbara l'avait chantée, c'était un trois temps en piano, et moi j'avais décidé de la reprendre à la guitare. Pour moi, c'était amener en tout cas cette chanson dans notre époque avec ma vision, et ça a toujours été un grand frisson quand j'ai chanté cette chanson, puisque je me rendais compte que dans toutes les salles où je passais, les gens la connaissaient par cœur. Et ça, je trouve ça incroyable.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas que tu dois revenir, je ferai de nous deux le plus beau souvenir. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu?
Inter, la chanson de Rouault, une intouchable, Isabelle Boulay.
Ah, moi, là, c'est drôle parce que Barbara, je l'écoute depuis des années, là, mais c'est la première fois, je vais avoir 40 ans cet été, ça fait 20 ans que je chante. Là, et j'avais jamais osé interpréter une de ses chansons, et je le dis d'ailleurs au public, parce que j'avais l'impression que c'était de prendre un bijou précieux qui ne m'appartenait pas. Puis à un moment donné, les circonstances ont fait que ces chansons n'ont pas arrêté de tourner dans ma tête. C'était comme un esprit qui me hantait. Et puis à un moment donné, bon, j'ai entendu la version de « Dis quand reviendras-tu » de Jean-Louis Aubert quand je suis allée voir le film « Il y a longtemps que je t'aime ». Ah, puis je parlais avec lui parce que lui l'a très bien connu aussi. Et je dis « Moi, j'ose pas chanter ces chansons, mais dis, au contraire, tu devrais. » Et puis j'ai fait ça tranquillement. Et puis maintenant, bon, j'interprète « Dis quand reviendras-tu », mais ce que Barbara a de particulier, c'est que elle entre dans tout comme une funambule. Puis t'as l'impression qu'elle est toujours sur un fil de fer, puis qu'elle a toujours le vertige. C'est vraiment une chanteuse, une interprète vertigineuse. Et c'est pour ça, je pense que une chanson comme Drouot m'apparaît comme une montagne à gravir, tu sais, je sais pas, c'est comme un truc, c'est comme si t'es pas capable de regarder la chanson, t'es pas capable de l'aborder dans son départ, tu sais, tu vois déjà la cime, puis là, tu te dis, je serai jamais capable de m'y rendre, tu sais pas comment ça va être la montée, tu sais. C'est une chanson pour moi que je la touche tout le temps comme juste du bout des doigts, puis je la laisse là, tu sais. Je vais peut-être y arriver à un moment donné. J'ai le texte, les feuilles, tout ça, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles. J'arrête pas, je fausse, ça marche pas. Je suis pas capable de... As-tu vu comment je suis pas capable de la chanter? Bon, c'est comme... Je vais recommencer... Il y a beaucoup de textes aussi dans la chanson, fait que c'est pour ça que ça doit m'impressionner. OK, c'est parti. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quelque amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante. Ses mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient, se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre, les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacées ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence. Elle cria, je prends, je rachète tous. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passa si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30 et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. À quart, elle sortit de la salle des ventes. froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. À garde le sorti de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu.
Un modèle à suivre, Alexandre Tarot.
Je ne rêvais que d'une chose, c'était de la rencontrer. Alors j'allais la voir à la fin de ses spectacles. Et un jour, c'était la dernière à Mogador. J'étais là parmi, je sais pas, 200 personnes. Mais j'étais le premier pour une fois, le premier de la foule. Et elle est sortie. Et elle avait des gerbes de roses dans sa joue. Elle a ouvert sa porte, comme une grande star hein, qu'elle était. Elle a ouvert, pas la porte, mais la vitre de sa voiture. Elle a pris des roses comme ça qu'elle a données aux gens, à son public. Elle adorait. La première rose, c'était pour moi. Alors, j'étais très très jeune. J'ai gardé cette rose qui était pourrie après pendant des années. Vous voyez à quel niveau j'étais arrivé. Et je ne l'ai pas rencontré. Mais je lui ai écrit en effet des lettres. Je lui ai écrit des lettres très très tôt. J'ai commencé à enregistrer des disques assez tôt. Je crois que le premier, j'avais 19 ans. Et dès que j'ai reçu le premier exemplaire de ce disque, je l'ai mis dans une enveloppe. C'est à elle que je voulais l'envoyer en premier. Je lui ai écrit une lettre un soir. Le disque dans l'enveloppe, j'ai mis ça sur mon bureau. Le lendemain, je me suis réveillé, je l'ai jeté à la poubelle parce que j'avais l'impression d'être totalement ridicule. Ma lettre n'était pas bien écrite. Et je me suis dit, de toute façon, elle va même pas écouter. C'est débile. Deuxième disque, pareil. Troisième disque, pareil. Quatrième disque, pareil. Voilà, il y a une espèce de répétition, donc je ne lui ai jamais envoyé ces lettres, qui étaient des lettres, finalement, qui n'étaient pas des lettres d'amour, hein, j'étais pas complètement barré, mais je voulais simplement lui témoigner du fait qu'un artiste de musique classique pouvait être fou d'elle, mais pouvait avoir appris beaucoup de choses d'elle. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été l'un de mes professeurs. C'était certes pas quelqu'un que j'ai rencontré en vrai, c'était pas une pianiste, c'était même pas une musicienne classique, quoiqu'elle ait quand même fait des études classiques, mais elle a été une leçon pour moi, une leçon dans sa manière de vivre la scène, son rapport avec le public, mais aussi une leçon de musique. Et cette manière, par exemple, de gérer une phrase musicale avec ses failles qu'elle avait à la fin de sa vie, ses médiums qu'elle n'arrivait pas à attraper. Elle avait des aigus, des graves, mais pas de médium. Donc c'était une voix très étrange, mais que je trouvais sublime. C'était important pour moi, qui n'avait pas tout pour être pianiste. J'avais pas la morphologie idéale. J'avais une mémoire avec des problèmes. J'avais une technique même à 18-19 ans qui avait, bon, et j'ai appris, grâce à Barbara, à mettre tout ça sur table. Aujourd'hui, quand je rentre sur scène, au fond, qu'est-ce que je dis? Je dis, ben voilà, vous êtes chez moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça c'est pas bien, ça c'est bien, je m'en fous, on va faire quelque chose ensemble. On met tout sur table, on dit tout. Et à partir de là, je peux vous dire qu'après toutes mes années de conservatoire où j'ai appris à cacher ce qui n'allait pas et à mettre en valeur des choses qui allaient, mais est-ce que ça allait vraiment? Là, par Barbara... J'exagère un peu parce qu'il n'y avait pas qu'elle hein, qui m'a inspiré, mais j'ai quand même appris à mettre mes failles en valeur, à dire voilà, ça j'arrive pas à le faire, et bien je vais en faire autre chose. Et bien ça peut me donner des couleurs nouvelles, des choses nouvelles. Donc voilà, c'est de cela que je voulais lui parler à travers ces lettres que finalement je n'ai jamais envoyées.
Je reçois à l'instant, je rentre chez moi, votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée et je ne pourrai rien, madame. Vous saurez comme moi que de l'avoir perdue, c'est lourd à supporter, madame.
La chanteuse Isabelle Boulay.
Qu'est-ce que j'envierais à Barbara dans sa façon d'interpréter? Mon Dieu. J'y pense pas trop, moi, à ma voix quand je chante, mais tu sais, j'aimerais ça être capable d'assumer autant qu'elle les failles que dans ma voix, en fait. C'est ce que je trouve le plus beau chez elle, justement, les moments où on perd sa voix, puis on entend un souffle ou un silence, mais qu'on l'entend quand même là-dedans, tu sais. Je pense que c'est ça, c'est qu'on soit encore capable d'entendre quelque chose dans les failles de sa voix.
Qu'il soit mort ici ou qu'il mourut là-bas, auriez-vous versé moins de larmes? Il en a décidé, lui, ça avait le droit. Il faut vous résigner, madame.
Arthur H., toujours dans sa voiture, sur France Inter.
Quand je l'ai vu, j'ai eu la chance de la voir au Châtelet. Bon, c'était peut-être sa dernière série de concerts. Et bah, c'était exactement ça, parce que sa voix était toujours à la limite de dérailler. Tu vois, elle n'avait plus ses aigus. Donc, tu étais dans une espèce de vertige, tu vois, d'apesanteur, en fait, qui fait que ça pouvait glisser et chuter, tu vois, et s'écraser sur le sol. Ou non, mais tu sentais cette tension, c'était palpable.
Il y en a certains qui disent qu'elle n'aurait pas dû se rendre jusque-là, jusqu'à chanter, justement, à l'époque du Châtelet. Toi, t'en penses quoi?
J'en pense que c'est complètement stupide, parce que Barbara, c'est un être, une âme, c'est la même quand elle est enfant, quand elle est jeune, quand elle est vieille. Et puis là, c'était une grande artiste, donc une grande artiste a toujours beaucoup d'intérêt à la voir... à être à côté d'elle, et puis même s'il y a des échecs artistiques, il y a toujours des moments de grâce. Barbara, c'est du niveau de Nina Simone ou de Billie Holiday, hein, c'est ce niveau-là, quoi. Donc Billie Holiday à la fin ou Nina Simone à la fin, c'est vrai qu'il y a un côté pathétique, mais en même temps il y a tellement de force, il y a tellement une présence comme ça unique dans l'univers, comme ça une présence qui apparaît, qui passe. Que tout est bon à prendre, quoi, je pense. Et puis maintenant, on passe devant le Châtelet, où elle a fini ses derniers concerts. Donc on a fait de l'Écluse et le Châtelet, le début et la fin. C'est marrant. Avant qu'il meure, on a l'impression que les gens sont éternels, qu'ils seront là pour tout le temps. Tout d'un coup, ils disparaissent, ils sont plus là, on peut plus les toucher, on peut plus leur parler. Donc j'ai eu ce regret-là de pas... aller la visiter chez elle.
Pour avoir ton vélo?
Ouais, pour qu'elle me rende mon vélo. Bien sûr. Elle va sûrement revenir sur Terre pour me rendre mon vélo un jour.
Tu nous préviens qu'on se voit là?
Oui, voilà. Ouais, bien sûr, quand Barbara me rendra mon vélo, il y aura Radio-Canada. Of course.
Une empreinte indélébile. Alexandre Tarot.
Ce jour-là, ma vie avait véritablement changé. C'est que j'avais vu sur scène une artiste hors du commun qui était déjà dans la dernière partie de sa vie. C'est-à-dire qu'elle était bossue, elle avait du mal à se mouvoir sur scène. Et pourtant, elle était admirable. Elle dansait comme personne. Vous demanderiez à une autre personne, même une bête de scène, de danser comme elle le faisait, ce serait absolument ridicule. Pourtant, elle était sublime. Elle était déjà âgée. Mais elle paraissait 40 ans sur scène. Elle avait du mal à jouer, vous savez, avec ses doigts, elle avait du mal à jouer du piano dans les dernières années de sa vie. Mais elle se démerdait pas mal du tout. J'avais l'impression avec Barbara que tout était possible. Que tout était possible par la scène. Pas autrement, par la scène. Que la scène pouvait vous aider à tout transcender. Mais tout, tout. Et grâce à elle, je crois que je peux dire aujourd'hui que la scène, pour moi, c'est là où je veux naître, renaître à chaque concert. Donc vivre, aimer et mourir.
Ça va le son?
Oui, parce que là, j'ai presque pas joué. Parce
ouais,
que
moi, j'ai presque pas chanté, mais pareil, là, j'ai placé le lutrin. Je l'ai déplacé un peu. Est-ce que ça change pour votre son si je le mets là? Ça change rien?
Non, c'est bon.
Ok, d'accord.
Avril 2012, la salle du Grand Théâtre de Québec est vide. Sur la scène, un Steinway. Noir. Alexandre Tarot et Pierre Lapointe.
Bah, moi je suis quand t'es prêt.
J'aimerais bien, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une introduction toute sans un thème de Barbara, mais simplement cette base qu'on retrouve dans beaucoup de ses chansons, quelque chose comme ça. Et puis juste quelques...
juste quelques notes.
Ok.
Avec ça, on retrouve l'atmosphère de...
Ouais, c'est Barbara.
De Barbara.
C'est Barbara.
Et ensuite, cet accord-là qui te donne le
J'y vais après
départ.
Ça.
Ouais.
Bon, d'accord.
J'aimais bien cette idée de petite introduction, simplissime.
Ouais, bah, oui.
Comme des petites gouttes d'eau.
Oui, c'est très très beau.
Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, la gueule en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière comme un bijou à la main. Comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long lorsqu'il faut le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Et tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qu'ils devaient vivre, vaille que vivre. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre, la joie de vivre, viens la vivre, ta joie de vivre.
C'était Barbara en noir et blanc sur les ondes des radios francophones publiques.
À la recherche Marie-Pierre Duval.
À la technique Serge Brideau et François Légaré.
À la discothèque Daniel Giroir.
À la création musicale Jean-Philippe Goncalves.
Un merci particulier à Michel Côté et Jean Crépeau.
Cette émission signée Francis Legault
est présentée par Anne Dorval.